Je vous invite à rouvrir vos Bibles dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 18. C'est le verset qui nous a servi de base la semaine dernière pour commencer donc cette série de messages sur l'Église. Et ce verset nous dit, hein, et c'est Jésus qui parle, et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et donc avec ce passage, nous avons vu plusieurs choses, établi trois choses importantes. Déjà, nous avions regardé à l'étymologie du mot église dans le grec, ecclesia, hein, qui désigne un rassemblement, un groupe de personnes qui sont appelées hors de leurs activités quotidiennes, habituelles. Ils sont appelés à se réunir ensemble dans un but spécifique. Nous avions vu que ce terme ecclésia était employé hein, dans la vie civile, même à l'époque des apôtres, hein, dans le livre des Actes. Nous voyons une assemblée hein, de gens se constituer hein, pour parler de ce qui vient de se passer avec Paul, etc. Mais on sait que la plupart des usages du mot dans le Nouveau Testament se rapportent à quelque chose qui est unique. Quelque chose qui est extraordinaire, et c'est ce que Jésus est en train d'annoncer ici. C'est la première mention du mot Église dans le Nouveau Testament. Et Christ qui nous dit donc, je bâtirai mon Église. Nous avons vu donc que Christ, il est le créateur, le fondateur de l'Église. On a vu cette source donc divine, cette origine divine de l'Église, mais également que c'était donc une création unique. Invincible aussi, puisque le séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Et bien sûr, hein, on est en train de parler de l'Église ici dans son ensemble. On va développer un peu ces choses ici dans ce message ce matin. Ce que nous allons voir ce matin, là où nous allons davantage attarder notre étude, c'est sur un aspect, on va dire, essentiel de l'Église. Ce qui la rend unique également, c'est que l'Église, elle est vivante. L'Église est un organisme vivant. Et nous allons voir donc, à travers plusieurs passages, ce que cela veut dire, hein, déjà sur un point de vue bon, théologique, mais aussi pour nous-mêmes, ce que ça implique pour nous de comprendre que l'Église est une entité, un organisme vivant. Un autre passage que nous allons voir forcément au cours de cette prédication, c'est celui de 1 Corinthiens chapitre 12, deux versets essentiellement. On pourrait citer tout le passage, hein, du verset 12 jusqu'au verset 27. Mais dans le verset 12 et le verset 27, il est question de l'Église qui est représentée comme un corps, hein, qui a plusieurs membres. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Et verset 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc, on a une image, celui d'un corps, et pas d'un corps inanimé, pas un corps qui gît sur le sol. Mais le corps qui est décrit ici est un corps vivant, parce qu'il est constitué déjà de personnes vivantes, n'est-ce pas? Mais parce que Christ lui-même hein, est vivant, ça me fait penser à un autre passage qu'on a déjà vu il y a plusieurs siècles de cela, dans 1 Pierre chapitre 2, hein, les versets 4 et 5, qui nous parle de Christ qui est la pierre vivante et que nous-mêmes, comme des pierres vivantes, nous devons nous édifier hein, pour créer cette maison spirituelle, hein, pour être ce saint sacerdoce, ce à quoi nous sommes donc tous appelés. Donc encore une fois, l'objectif hein, de ces différents messages que nous allons avoir sur l'Église, c'est pour que nous soyons assurés de bien comprendre ce qu'est l'Église et de comprendre ou de découvrir hein, quelle est notre place en tant que chrétien, notre rôle, notre responsabilité vis-à-vis de cette Église, mais également nous ensemble en tant qu'Église. Notre responsabilité, nos responsabilités que le Seigneur nous a confiées. Alors nous allons voir plusieurs choses, mais ce que nous allons voir tout d'abord, c'est bien comprendre ce qu'est l'Église, c'est qu'il existe deux dimensions concernant l'Église. Vous l'aurez peut-être noté, ici dans notre passage de Matthieu, Jésus, il parle de « je bâtirai mon Église ». Il parle d'une seule Église. Il parle d'une seule assemblée, n'est-ce pas? Il n'est pas en train de dire « je bâtirai mes Églises ». Et par la suite, on continue dans le livre des Actes, et qu'est-ce que nous voyons? Ah, on voit la naissance de l'Église à la Pentecôte. Ah, Jésus, ça y est, il commence à bâtir son Église. Et on voit cette Église se réunir à Jérusalem, et que plusieurs des chrétiens à Jérusalem se réunissaient à différents endroits, dans les maisons ou au temple. Par la suite, on voit que l'Évangile se propage, et que des Églises commencent dans d'autres villes. Et on va voir plusieurs églises ainsi naître et se développer en lisant le livre des Actes. Et après, en lisant bien sûr les épîtres de Paul, de Pierre, on comprend aisément que il n'y a pas eu que l'église à Jérusalem, il y a eu beaucoup d'églises qui sont nées. Et donc il y a ces deux notions-là, ces deux dimensions de l'église qu'il nous faut bien comprendre. Et c'est ce que nous allons voir. Il y a cette église... Je sais, certains hésitent à utiliser ce titre-là, mais cette église qu'on va appeler universelle. C'est de cette église-là que Jésus parle lorsqu'il dit « je bâtirai mon église ». C'est aussi de cette église-là que Paul parle lorsque lui-même avait reconnu qu'il était un persécuteur de l'église, ou lorsque, il fait la rencontre du Seigneur Jésus sur la route de Damas. Il persécutait qui ? Il persécutait les chrétiens, il persécutait les églises, et le Seigneur qui dit « Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Donc, il voyait l'ensemble des chrétiens, des églises, comme une seule chose, une entité liée à Christ lui-même. On avait vu aussi le passage dans Éphésiens chapitre 5, verset 25, on connaît bien ce verset, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Donc, là encore une fois, on a une notion unique de l'Église, au singulier. Dans le verset suivant, il parle de l'Église, comme quoi il est en train de la purifier, de la sanctifier. Dans d'autres passages, il est question aussi de Christ comme étant la tête de l'Église. Donc là, on comprend... qu'il y a ces deux entités qui existent, à la fois cette église universelle, générale, mais également d'autres églises que nous appelons des églises locales. Donc on comprend qu'il y a cette distinction qui existe entre ces deux aspects, deux dimensions de l'église, notre ecclésia ici, notre petite assemblée ici, se distingue par rapport à cette Église universelle générale, et on le verra, mais elle en fait partie également. Et donc par assemblée ou Église universelle, on entend, quand on étudie la théologie et l'ecclésiologie en ce qui nous concerne aujourd'hui, bien que cette assemblée, elle est en formation, elle n'est pas complète, elle n'est pas achevée. Elle comprend, tous ceux qui, par la foi, se sont tournés vers Christ pour le salut de leur âme. Cette église, elle a commencé à la période, de la Pentecôte, dans le livre des Actes. Et cette église, elle est existante, tout en n'étant pas encore vraiment complète ou achevée. Je crois que l'image qu'il nous faut voir par rapport à cette Église universelle, c'est l'image, d'un embryon. L'image de quelque chose qui est réellement là, un bébé qui est conçu dans le sein, dans le ventre de la maman. Il existe, il est réel. Il n'est pas encore achevé, il n'est pas encore complété. Mais il faut voir un peu cette Église universelle dans ce sens-là. Parce que Christ, il est en train de la bâtir. Il est en train de la mettre ensemble. Et donc, cette Église donc, comprend tous ceux qui sont nés de nouveau, qui sont nés de l'Esprit de Dieu, ceux qui ont été même baptisés dans ce même Esprit, qui ont été inclus dans cette Église qui est le corps de Christ. Dans le passage d'1 Corinthiens 12, hein, verset 13, il nous est dit « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Donc ce verset nous parle de l'Église, nous parle de ce que c'est par l'Esprit, hein, par la régénération que produit l'Esprit Saint dans le cœur du croyant repentant, que cette personne est ajoutée, hein, baptisé de cet esprit pour être ajouté à l'Église de Christ. Et donc, c'est l'esprit qui nous régénère, c'est l'esprit qui permet donc de faire partie de cette Église. Le passage dans 1 Pierre chapitre 1, versets 22 à 25, nous dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » qui nous montre donc ici dans ce passage que l'œuvre du Saint-Esprit dans notre salut, ça a été celui de nous régénérer, mais aussi donc de nous ajouter à cette Église que Jésus est en train de bâtir. Donc cette entité qui est en formation, comme je l'ai dit, elle n'est pas complète. Elle n'aura vraiment de réalité visible, concrète, parfaite, que lorsque Christ, eh bien, ressuscitera les croyants, tous les croyants, hein, depuis la Pentecôte jusqu'au moment de l'enlèvement, et il appellera son Église donc à le rejoindre au ciel à la période de l'enlèvement. C'est ce que Paul nous enseigne dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, hein, les versets 15 à 17, hein, lorsque la trompette va retentir, que le Seigneur lui-même nous appellera, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants, hein, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc c'est ce qu'on appelle l'enlèvement, cet événement où eh bien Christ va venir chercher son Église et l'amener avec lui au ciel. Et donc c'est à ce moment-là que cette Église universelle, générale, eh bien elle sera visible et elle sera concrète. Cette assemblée à venir, donc elle se constitue actuellement. Et elle se constituera jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Et pour l'instant, cette Église universelle, elle n'est pas parfaite. Pourquoi? Parce que nous qui sommes ici, nous qui sommes vivants, nous qui sommes réunis en tant qu'assemblée, une assemblée locale, nous qui sommes nés de nouveau, nous avons été baptisés dans l'Esprit, hein, nous avons reçu la régénération par l'Esprit Saint, eh bien nous faisons partie de cette Église universelle. Nous sommes appelés à cette Église, mais nous n'y sommes pas encore de manière concrète, de manière réelle. Mais nous savons aisément que nous-mêmes, moi le premier, nous ne sommes pas parfaits. Rappelons-nous, hein, de ce que Paul nous dit au sujet de l'Église et de ce que Christ est en train de faire pour l'Église dans Éphésiens chapitre 5. On a plus ou moins déjà cité ces versets, mais Christ, hein, qui s'est livré lui-même pour elle, hein, verset 25, verset 26, il y a un objectif. « Afin de la sanctifier en la purifiant et en lavant par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église, donc cette Église universelle, générale, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tout sera parfait. On aura une Église parfaite. Et donc Christ, oui, il agit actuellement dans notre vie, par sa parole, par l'Esprit Saint, qui nous appelle donc à la sanctification, qui nous appelle à nous détacher du péché, qui nous appelle à nous rapprocher du Seigneur. Il est en train de nous travailler dans ce but où, voilà, enfin, dans le ciel, hein, nous serons finalement sans tache ni ride, c'est pas par rapport à notre vieillesse, hein, mais qu'il n'y a plus de péché, il n'y a plus de défaut, mais une Église sainte et irréprochable. Donc c'est cette Église-là également que l'auteur de l'Épître aux Hébreux appelle l'Église des premiers-nés, hein, celle qui est inscrite dans les cieux, dans Hébreux 12, verset 23, il parle de cette assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Donc c'est cette Église universelle. Alors comme je disais, certains sont frileux a adopté ce terme universel, et ça, c'est lié à l'origine du mot lui-même. C'est-à-dire que il existe une religion qui s'appelle l'Église de Rome, l'Église catholique, et le mot catholique lui-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire universel. Hein. C'est un terme grec qui ne se trouve pas dans la Bible, mais c'est un terme grec qui veut dire universel ou général. Alors bien sûr, bon, on comprend que certains qui veulent se démarquer de l'Église catholique ne veulent pas employer ce terme universel. Donc parfois on va parler de cette assemblée générale, pas comme celle qu'on va avoir cet après-midi, hein, mais cette réunion de tous les croyants qui vont être donc appelés à être unis au ciel pour l'éternité à Christ. L'assemblée locale, c'est cette autre dimension de l'Église. L'assemblée locale, si on voit l'Église, cette Église universelle, comme un macrocosme, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui englobe tout ce qui est vivant, le monde organique, si on reconnaît l'Église universelle comme étant un macrocosme, on va parler de l'Église locale comme un microcosme, comme une image réduite, si vous voulez. L'Église locale, elle est une image réduite, imparfaite, incomplète, de cette Église universelle. C'est ce vers quoi nous tendons en tant que chrétiens, en tant qu'Église, c'est que nous voyons cette Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, qui est sainte et irréprochable. Nous voyons cela et voilà l'objectif que nous nous fixons en tant qu'Église, en tant que croyants, c'est cette Église universelle. Donc, comme je l'ai dit, dans le Nouveau Testament, nous voyons donc plusieurs églises locales, parfois même des regroupements d'églises locales, où il est question aux églises de la Galatie ou de telle région, etc. Donc, on a plusieurs églises locales qui sont donc mentionnées. On a parlé de Jérusalem, mais aussi, bon, il y a Éphèse, Sancré, Corinthe, Thessalonique, l'église des Laodiciens, etc. Et donc, ces églises locales sont une image, une représentation donc, de ce qui est à venir. C'est la partie visible, finalement, de la réalité de cette Église de Jésus-Christ. Parce que nous-mêmes, ici, en tant qu'Église locale, nous sommes, oui, une image imparfaite, mais nous sommes une image de ce que Christ il est en train de bâtir. Même si nous sommes imparfaits, nous ne devons pas négliger le fait que nous avons été sauvés, régénérés, sanctifiés, de nouvelles créations, n'est-ce pas? Et ça, c'est ce que nous sommes appelés donc à projeter en tant qu'Église locale dans ce monde d'incroyants. Et donc l'Église locale, c'est une réalité donc visible et imparfaite de cette assemblée générale à venir. Et dans les Écritures, ce qui est intéressant, c'est que on va avoir les mêmes termes ou même images qui sont employées pour décrire à la fois cette Église universelle générale, l'Église locale et parfois même le croyant, pour montrer qu'il y a un lien indissociable entre chacune de ces entités-là. Et donc, on va parler des figures de l'image de l'épouse, du corps, même de l'édifice. Je sais qu'on dit souvent que l'Église, c'est pas un bâtiment, mais la Bible nous parle, nous montre que l'Église en elle-même, il y a cette image d'un édifice, parce que Christ est en train de la bâtir. Et donc, cet édifice donc du troupeau. Donc, par exemple, on a déjà cité Éphésiens 5, 25, où on voit cette image d'une relation de quoi? De mari et de femme entre Christ et l'Église. Paul, lorsqu'il a écrit sa seconde épître aux Corinthiens, il va qualifier sa relation avec cette Église locale comme la relation d'un mari envers sa femme. Il dit de Corinthiens 11, « Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Donc on a cette image de cette relation de mari-femme. On a la notion donc de corps hein, de Christ qui est mentionné donc pour l'Église générale, mais aussi pour l'Église locale. Lorsque Paul écrit aux Corinthiens dans la première épître, cette fois-ci au chapitre 12, hein, verset 27, qu'on a lu tout à l'heure, vous êtes le corps de Christ. Il s'adresse à qui? À une Église locale. Il va parler aussi hein, des croyants, hein, comme avec les mêmes idées, les mêmes images. Bon, 1 Corinthiens 16, 19, savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit hein, qui est en vous? Donc, on a différents passages comme ça qui nous montrent combien eh bien, le croyant fait partie donc de cette Église universelle, le croyant fait partie d'une Église locale, et on a ces trois éléments, hein, l'Église universelle, l'Église locale, le croyant, qui sont intrinsèquement liés, qui sont indissociables. Et donc ces deux réalités concernant l'Église, hein, cette Église universelle et l'Église locale, rappelons-le, ne sont possibles que par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, qui a fait de nous quelque chose d'extraordinaire. Éphésiens chapitre 2, versets 4 et 6, hein, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants en Christ. Hein, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc la grâce de Dieu, c'est ce qui a permis que nous puissions être sauvés, de mort spirituellement que nous étions, nous sommes passés à cette vie spirituelle en Christ. Nous, en tant que croyants, nous faisons donc partie maintenant de cette Église générale qui est en train de se constituer. Et en tant que croyants, nous sommes également appelés à faire partie d'une église locale, hein, et d'avoir sa place dans cette assemblée. La deuxième chose que j'aimerais souligner par rapport à cette église qui est un organisme vivant, si c'est un organisme vivant, on l'a vu, c'est parce qu'on a la grâce de Dieu qui nous a permis, nous, de passer de mort à vivant. Mais surtout parce que l'église, eh bien, c'est l'église du Dieu vivant. C'est ce que Paul dit à Timothée dans sa première épître, au chapitre 3, verset 15. Il dit, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Si l'église est vivante, si c'est un organisme vivant, c'est parce que son origine, déjà, elle est inscrite en Christ. Lui, qui est le Dieu vivant, hein, le Dieu vivant est vrai, lui qui est la vie. Donc l'Église n'est vivante, déjà parce que les membres qui la constituent sont vivants spirituellement. L'Église est vivante et les chrétiens sont vivants parce que Christ est vivant. Hein, c'est la base même de notre foi, de ce qui nous a réunis ensemble en Christ, c'est que Christ est vivant. Hein, c'est ce que Paul souligne dans 1 Corinthiens, chapitre 15, où il dit, hein, par exemple, que si Christ il n'est pas ressuscité, notre prédication elle est vaine, notre foi elle est vaine. Et à ce moment-là, il n'y a plus vraiment de raison de se réunir, il n'y a plus vraiment de raison pour l'Église. Hein, on peut tout simplement changer le nom et mettre club social si vous voulez. Mais ce n'est pas ça l'Église. Elle est l'Église du Dieu vivant. Le Dieu vivant est vrai. La semaine dernière, nous avions déjà vu que l'Église, elle est la création de Christ. Elle lui appartient. Qu'elle vient, hein, de source divine. Donc il est logique que ce que Christ a créé possède également cette même caractéristique de vie abondante, parce qu'elle nous vient de Dieu. La nouvelle nature que nous avons obtenue en Christ par la grâce de Dieu, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire parce qu'elle nous permet, eh bien, d'être assimilés à Christ. Les images que nous allons voir dans quelques instants, qui décrivent cette relation entre l'Église et Christ, hein, on parle de l'époux et de l'épouse, on parle du corps de Christ dont il est la tête, etc. Mais on est lié. à Christ. Et ce lien, il sera, on va dire, achevé, complet, finalisé, comme on l'a vu tout à l'heure, lors de ce rassemblement final au ciel de cette Église universelle. Mais dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4, Pierre nous dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc déjà, il nous explique ce que nous sommes appelés à être et à faire. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses et un objectif important à souligner ici, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Rappelez-vous de tout à l'heure quand on faisait ces partages par rapport à nos lectures. Le fait que Dieu ait créé l'homme et la femme à son image. C'était déjà indicateur du plan de Dieu pour l'humanité. Il voulait créer donc une créature qui lui soit semblable et qui lui soit semblable, eh bien, quasiment en tout point, n'est-ce pas? Bon, ça a été empêché par l'adversaire, par le choix de l'être humain, du péché, de la désobéissance. Mais ça n'a pas arrêté le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est l'Église. L'Église qui n'est possible que par le sacrifice de Christ, sa mort et sa résurrection, qui nous permet nous-mêmes donc d'être régénérés, d'être vivants spirituellement, de faire partie de cette Église qu'il est en train de construire et de constituer. Et nous allons être liés donc à Christ de cette manière, l'image de l'époux et de la fiancée, l'image de ses noces, l'image où finalement, ils ne feront plus qu'un. Permettez-moi juste de faire encore une fois juste cette petite liaison ici, par rapport à ce que les Écritures nous disent au sujet de l'homme et de la femme, ils ne deviendront qu'une seule chair. C'est quelque chose de lié entièrement nouveau ensemble. Et ça devrait justement nous époustoufler, nous faire nous asseoir là, et puis réfléchir encore davantage au plan de Dieu pour nous, vraiment. C'est de nous rendre semblables à lui. L'Église, donc, est vivante également parce qu'elle possède toutes les caractéristiques d'un être vivant. En regardant la définition de la vie dans un dictionnaire comme le Larousse, on va voir, par exemple, que c'est le caractère propre aux êtres possédant des structures complexes. On va parler de macromolécules, de cellules, d'organes, de tissus, etc. Mais donc de structures complexes capables de résister aux diverses causes de changement, aptes à renouveler, par assimilation, leurs éléments constitutifs, à croître et à se reproduire. Alors, je prends cette définition de la vie et je regarde à ce qu'est l'Église. La Bible nous dit que l'Église, elle est vivante, que c'est un organisme vivant. Dans les objectifs de l'Église, ce n'est pas tous les objectifs de l'Église, mais dans les objectifs de l'Église, on a cité que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Donc, on va devoir défendre. On a vu également que l'Église est appelé, par les versets qu'on a appris pour cette semaine, elle est appelée à faire quoi ? À faire de toutes les nations des disciples, de les baptiser, et de leur enseigner tout ce que Christ a prescrit. Donc, appelée à reproduire. Donc, l'Église, non seulement est vivante, parce que la Bible nous dit qu'elle est vivante, mais quand on regarde et la considère dans les objectifs que Christ a donnés à l'Église, nous retrouvons cette notion que c'est un organisme vivant, finalement. Et donc l'Église, en tant qu'organisme, elle est une structure complexe du corps de Christ qui exerce des activités vivantes par l'intermédiaire des croyants, de vous et moi. On a des fonctions différentes, distinctes, mais ensemble, mutuellement, Nous sommes appelés à œuvrer pour le Seigneur, à nous placer sous l'autorité de Christ. Et donc Paul également nous montre, nous dresse un portrait de l'Église comme étant cet organisme vivant, lorsqu'il la compare donc à un corps. On a d'autres figures qui sont mentionnées dans les Écritures par rapport à l'Église comme un édifice que j'ai mentionné, en tant qu'épouse également. Mais la principale caractéristique que l'on voit, c'est ça, c'est un corps. L'Église, elle est appelée le corps de Christ. Et si c'est le corps de Christ, Christ est vivant, l'Église est vivante. L'Église est vivante parce que, voilà, elle agit, elle réagit. Elle réagit par rapport, bien, au commandement que Dieu a donné pour le croyant, pour l'Église, et elle agit par rapport à cette connaissance de la volonté de Dieu. Quelque chose qui est vivant, c'est quelque chose qui agit, qui réagit. Même les formes de vie les plus simples, il y a une réaction qui se produit, lorsqu'il y a une stimulation. Il y a une action qui est faite, que même une cellule, va pouvoir même se diviser, créer une autre cellule. La vie est amenée à produire la vie. Et l'Église est l'Église du Dieu vivant. Il a fait de nous des êtres vivants et nous sommes appelés à donc reproduire cette vie. Et on verra cela dans nos prochaines prédications sur le thème de l'Église, sur ses objectifs et ses responsabilités. L'Église, finalement, elle est vivante parce que voilà, elle est liée à Christ. Il y a plusieurs images qui sont employées donc dans les Écritures pour parler de l'Église. Et d'ailleurs, bon, on va parler de l'Église comme étant le temple de Christ. Donc Christ, il est la pierre angulaire dans Éphésiens chapitre 2. De cette vierge dont Christ est le bien-aimé dans 2 Corinthiens 11. Une épouse dans Éphésiens chapitre 5, mais également dans Apocalypse chapitre 21, verset 29, où il nous est dit: « Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il s'agit ici de l'Église. L'Église, elle est également appelée un peuple qui appartient au Seigneur dans Tite chapitre 2 et verset 14. C'est une famille également dont Christ est le premier-né. Nous, par la nouvelle naissance, nous sommes devenus frères et sœurs de Christ. Nous avons été adoptés dans la famille de Dieu. Ainsi, comme Paul le dit dans Éphésiens 2 et verset 19, nous ne sommes plus des étrangers, nous ne sommes plus des gens du dehors. Nous sommes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Nous faisons partie donc de cette famille. Une race élue, un sacerdoce royal, 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Donc toutes ces illustrations dénotent ce lien unique qui existe entre Christ et son Église. Mais celle que je veux souligner davantage ce matin, c'est que dans d'autres illustrations, nous voyons des organismes vivants être employés pour décrire ce qu'est l'Église dans sa relation à Christ. Regardez dans Jean chapitre 15, vous connaissez bien ce passage, Jean chapitre 15, les versets 1 à 8. Dans ce passage, que voyons-nous? Nous voyons une image de la relation entre Christ et l'Église. Il dit: Je suis le vrai cep. Mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep. Vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme on dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Et là, Christ constitue donc cette vigne, ce cep, hein, tout entier, et le croyant, et a fortiori donc l'Église, elle est attachée à ce cep. Vous aurez noté ici que le fait d'être attaché à ce cep, eh bien, va produire quelque chose, va produire du fruit. Et donc le croyant, en tant que sarment, il est rattaché à la vigne, et on va voir que bah, soit, voilà, sa foi, c'est rien du tout, il produit pas de fruits, soit il va produire du fruit, soit il va produire beaucoup de fruits, et encore plus de fruits même. Mais ce que l'on a ici, c'est une image d'un organisme vivant que Christ emploie pour décrire qui il est et sa relation donc avec le croyant, avec l'Église. Et donc un organisme vivant va produire du fruit. Une église locale, vivante, va produire du fruit. Alors la chose intéressante que je veux aussi souligner ici par rapport à l'église locale, contrairement à cette église universelle générale, c'est quoi? On a parlé déjà bah, de notre imperfection à cause de notre péché. Mais dans l'église locale, dans toutes les églises locales quasiment, il y a des personnes qui sont là, ne sont pas sauvés. Il y a des personnes qui n'ont jamais, jamais placé leur foi en Christ par la repentance, hein, en demandant pardon à Dieu pour ses péchés. Il y a des personnes comme ça dans quasiment toutes les églises. C'est une réalité. Hein, combien de fois j'ai même entendu hein, des témoignages de gens qui avaient été dans l'église pendant des années. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que finalement, ben, je ne suis pas sauvé. Je n'ai jamais placé ma foi en Christ. Et donc, dans cette église locale, ben voilà, il va y avoir des branches qui ne produisent pas de fruits, qui vont être coupées, hein, parce que ça ne fait pas partie de cette église universelle. Christ emploie aussi une autre image, donc celle du corps vivant qu'on a déjà vu hein, dans les passages qu'on a cité, mais Paul y comparait l'Église dans plusieurs épîtres, donc à un corps humain, que ce soit dans Colossiens ou dans Éphésiens. Dans Colossiens 1, 18, il nous dit que Christ, il est la tête du corps de l'Église. Hein, il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et plus loin, verset 24, donc il parle hein, de ce que il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. Donc un corps. Donc Christ est la tête. Donc Christ est même le chef suprême. Dans cette même épître aux Éphésiens, un peu quelques chapitres auparavant, au chapitre 1er, il nous est dit au verset 22, il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Le corps de Christ. Christ en est le chef, il est la tête de ce corps, et à moins d'être rattaché, ce corps ne peut pas vivre, n'est-ce pas? Donc il y a ce lien indissociable entre l'Église et Christ, d'où ces images du cep, d'où ces images du corps. Et donc le lien entre Christ et l'Église est illustré ici, hein, par ce corps, mais également par le fait que pour juste montrer à quel point nous sommes liés à Christ, que nous faisons partie de son corps. Bon, on a cité hein, le passage avec la rencontre de Saul et le Seigneur Jésus sur la route de Damas. Hein, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il persécutait qui? Il persécutait les chrétiens, il persécutait les églises. Et Christ dit, tu me persécutes. Mais dans 1 Corinthiens 8, 12, Paul y parle hein, des péchés, et dit en péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, notez bien ce qu'il dit, vous péchez contre Christ. Et alors là, je suis désolé, mais ça doit nous amener à une réflexion bien plus profonde. Vous savez, dans la vie d'une église, une église locale, qui est constituée de croyants, mais il y a aussi des incroyants parfois. Une église locale qui est constituée de personnes qui, certains sont faibles dans la foi, D'autres sont plus avancés dans la foi. Dans les églises locales où, eh bien, il peut y avoir une diversité d'opinions sur certains sujets. Et malheureusement, cela arrive que dans les églises, il y ait tellement de tensions que ces tensions nous fassent oublier l'amour de Christ, la grâce de Christ, mais nous font oublier aussi que nous sommes le corps de Christ. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose de plus triste que cela, que de constater que des chrétiens n'arrivent pas à se pardonner, que des églises soient obligées de passer par des scissions et des divisions, etc., parce que les chrétiens ne peuvent pas s'entendre. Alors que nous sommes le corps de Christ. Un corps que Christ a constitué par son amour et par sa grâce. Et je dis pas ça maintenant parce que je suis en train de voir qu'il y a des problèmes ou quoi que ce soit. J'apporte ces choses-là pour que nous comprenions bien ces choses fondamentales de la vie d'une église. Pour que Dieu nous préserve de telles situations plus tard. Que nous nous rappelions de ces choses, de l'amour et de la grâce de Christ, et que nous faisons partie de ce corps, nous sommes ce corps de Christ. Et que lorsque nous faisons du mal à un frère ou à une sœur dans l'Église, lorsque nous péchons contre un frère ou une sœur dans l'Église, rappelons-nous que nous péchons contre Christ. Rien que cette pensée-là. Parfois, on peut quelque part tolérer le fait de pécher contre un être humain, etc., parce que lui aussi, il a ses problèmes, il a ses péchés, lui aussi, hein, et il n'est pas parfait. Mais considérons ceci, lorsque nous péchons contre un frère, contre une sœur, nous péchons contre Christ. Est-ce que nous aurions la même attitude si nous avions Christ face à nous? Est-ce que nous aurions les mêmes propos face à Christ que ceux que nous avons trop souvent avec des frères et sœurs? Je pense pas. Donc les croyants qui font partie hein, de ce corps de Christ, qui constitue ce corps que Christ a réuni, qu'il est en train de bâtir. Et c'est lui, encore une fois, qui en est l'architecte. C'est pas les êtres humains qui ont fondé l'Église, c'est Christ. Et c'est Christ lui-même, c'est le Seigneur lui-même qui ajoute à son Église. Il a dit « Je bâtirai mon Église » dans ce passage de Actes chapitre 2, où nous voyons donc la naissance de l'Église à la Pentecôte, nous voyons verset 47 que chaque jour, le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est sa création. C'est son corps. Il en est l'architecte. Et c'est un corps donc qui est vivant, qui est fonctionnel, qui est organisé, hein, donc chaque membre est utile et même nécessaire. C'est ce que Paul nous montre dans 1 Corinthiens chapitre 12, hein, les versets 12 à 27, et nous aurons l'occasion de voir davantage cela dans les prochaines prédications. Mais cette église vivante, elle possède donc une structure, elle possède une organisation, elle possède des membres avec des fonctions différentes, des fonctions variées, mais des fonctions qui travaillent et qui œuvrent ensemble pour être ce même corps de Christ. Donc Christ en est le chef, la tête, la source de vie et de force de l'Église, son corps dont tout membre constitue un élément essentiel. Donc c'est un organisme vivant. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons veiller. Nous devons veiller sur nous-mêmes. Nous devons veiller les uns sur les autres parce que nous faisons partie de ce même corps. Parce que nous voulons œuvrer ensemble pour que ce corps eh bien, puisse refléter, ce sera toujours de manière imparfaite, mais refléter le mieux possible cette Église, encore une fois, parfaite, sans tache, ni ride, rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Donc, ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est que donc autour de Christ, donc se rassemble cette église vivante, une église vivante qui est donc cette église universelle qui est en formation, en gestation, et que de cette église, eh bien, sont nées les différentes églises locales, également à Jérusalem et ensuite dans les différentes villes et aujourd'hui même ici, on découvre que l'origine donc de l'église locale et que le lancement de cette église universelle, de cette église glorieuse, ont eu lieu donc à la Pentecôte, mais que ces églises locales constituent eh bien cette la forme visible et imparfaite de cette future église qui sera réunie à Christ dans les cieux. Les églises locales constituent également une infrastructure, un corps à travers laquelle eh bien cette église universelle, eh bien, cette église locale, elle est un instrument et elle doit être un instrument qui va être employé pour ajouter à l'église des âmes, pour ajouter à cette église universelle. Et donc, si notre église, elle est vivante par Christ, alors cette vie, elle doit se manifester. Quelque chose qui est inerte, quelque chose qui est inanimé, quelque chose qui est sans vie, ça ne bouge pas. Ça n'a aucune action, ça n'a aucune interaction avec ce qu'il y a autour. Mais ce qui est vivant, ça agit et ça réagit. Et c'est ce que nous sommes appelés à être en tant qu'église locale, d'être vivant et d'agir et de réagir. Et par la grâce de Dieu, Dieu voulant, nous verrons le rôle, les responsabilités de l'église locale et de voir comment nous pouvons être davantage cette église vivante. Donc j'espère que ce matin, ces différents éléments qu'on a pu voir concernant cette église vivante, cette église que Christ est en train de bâtir, de constituer, de voir ce qu'est cette église universelle, cette église, les églises locales également, qui sont une réalité visible de ce que Christ est en train de bâtir pour cet événement futur, eh bien que nous comprenions davantage la grâce que Dieu nous a faite de pouvoir être réunis ici. Ces locaux sont une grâce, mais bien plus que ces locaux, la plus grande grâce, c'est que nous connaissions Christ comme Sauveur et Seigneur, et que nous soyons ce corps de Christ, ensemble, et qu'ensemble nous puissions faire quelque chose pour le Seigneur, que nous puissions manifester cette vie, ici, mais également à l'extérieur.